êtes bien sur Radio Orient, il est 13h. À la une, 25 ans après les attentats du 11 septembre à New York perpétrés par Al-Qaïda, le monde n'est plus le même. Des attentats qui ont bouleversé la politique étrangère américaine. On a vu pendant des années ce groupe terroriste comme la menace ultime. 25 ans plus tard, l'organisation terroriste représente-t-elle encore une menace? Réponse dans ce journal. Israël a dynamité hier des fortifications souterraines récemment prises au Hezbollah dans le sud du Liban. L'attaque a déclenché un mini-séisme, on vous explique. Les propos racistes d'un policier municipal à Carcassonne continuent de susciter l'indignation. Dans votre journal, le président honoraire du MRAP, Jean-François Quentin. Il y a 25 ans, les attentats du 11 septembre à New York propulsaient l'Amérique et le monde dans une nouvelle ère. Décimée après près de deux décennies de frappes américaines, Al-Qaïda, l'organisation terroriste responsable de ces attentats, ne subsiste désormais qu'à travers ses branches implantées, notamment au Sahel et en Somalie. Le djihadisme international prospère avec l'émergence de l'organisation de l'État islamique, tandis que Al-Qaïda a été largement affaibli. Inès Gilles.
L'organisation terroriste n'est plus ce qu'elle était au moment des attentats du 11 septembre. Les compagnons d'Osama Ben Laden ont été pourchassés à travers le monde et largement décimés par frappes de drones. Ils se comptent désormais sur les doigts d'une main. L'ancien chef Osama Ben Laden a été tué en 2011 par l'armée américaine lors d'une opération au Pakistan. Son successeur Ayman al-Zahawiri a été lui tué dans une frappe de drone en Afghanistan en juillet 2022. Qui connaît aujourd'hui le leader d'Al-Qaïda. Son chef supposé est maintenant Saïf El-Adel, un Égyptien. On ne connaît pas son pays de résidence, mais il vivrait sous protection en Iran. Le fait qu'un leader djihadiste sunnite soit hébergé par une théocratie chiite, qui l'exècre en théorie, en dit long sur le déclassement de l'organisation terroriste. D'autres membres d'Al-Qaïda ont été faits prisonniers. Le français Zacharias Moussaoui, seule personne à avoir été condamnée aux États-Unis pour complicité dans les attentats du 11 septembre, purge une peine de réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité au Colorado. Il va d'ailleurs demander à purger sa peine en France. Al-Qaïda n'a plus aujourd'hui la capacité de monter des attentats meurtriers comme elle l'a fait durant les années 2000, à Bali en 2002, à Madrid en 2004 ou encore à Londres en 2005. Aujourd'hui, plutôt qu'une cellule centrale pilotée par un chef charismatique, l'organisation Al-Qaïda se décline en une poignée de groupes autonomes dispersés entre le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan ou encore en organisation dite affiliée présente en Afrique comme Al-Shabaab en Somalie ou Jamaat Nusrat al-Islam ou Al-Muslimin en Afrique ouest. Son rayon d'action est très réduit. L'organisation a largement été affaiblie après le 11 septembre.
Merci beaucoup Inès Gilles. Et décidément Donald Trump ne fait rien comme tout le monde. Pour la seconde année consécutive, le président des États-Unis ne commémorera pas les 25 ans des attentats du 11 septembre à New York. Le maire, lui, de la ville, Zoran Mandani, sera bien présent, tout comme les quatre ex-présidents américains, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ou encore George Bush, qui dirigeait les États-Unis au moment des attentats. Donald Trump, lui, a fait le choix d'assister à une autre cérémonie au Pentagone, un quartier général du ministère de la Défense, également ciblé sur un avion détourné par des pirates de l'ère de l'organisation djihadiste Al-Qaïda. Le président américain, toujours, lui, a déclaré hier qu'il n'avait aucun regret concernant le déclenchement de la guerre en Iran, malgré l'effet que le conflit pourrait avoir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Je cite, si je devais le refaire, je referais exactement la même chose, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Israël a dynamité hier des fortifications souterraines récemment prises au Hezbollah dans le sud du Liban. L'attaque a déclenché une secousse si puissante qu'elle a été détectée par les agences de surveillance sismologique. Un mini-séisme donc a été provoqué donc la nuit dernière. Inès Gilles, est-ce qu'on en sait davantage?
Et plus de 1100 tonnes d'explosifs ont été utilisées pour détruire des tunnels sous la colline de Ali Taher au sud Liban. Dans une vidéo partagée par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, on voit une énorme boule de feu monter vers le ciel dans la nuit. Les images sont terrifiantes. récente. L'explosion a été si puissante que l'agence américaine de sismologie, USGS, référence mondiale dans la détection des tremblements de terre, a relevé une secousse de magnitude 4,1. Cette secousse équivalente à un petit sisme a d'ailleurs été ressentie par de nombreux habitants du sud du Liban. Cette explosion est un tournant majeur pour le contrôle du sud Liban par l'armée israélienne, car elle permet, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Israël Katz, l'établissement, je cite, de la zone de sécurité israélienne dans le sud du Liban. Ce dynamitage intervient quelques jours après que les autorités israéliennes ont affirmé avoir pris le contrôle de la crête d'Alitaer, une zone montagneuse. Alors qu'est-ce que l'armée israélienne a détruit exactement ? La zone est malheureusement restreinte à la presse, il faut donc s'appuyer sur des déclarations israéliennes pour le deviner. Et selon Israël, le Hezbollah avait creusé des tunnels dans ce secteur, lui permettant de lancer des drones et des missiles contre les positions militaires israéliennes dans le sud du Liban, ainsi que sur le nord d'Israël, de l'autre côté de la frontière. Les membres du Hezbollah auraient creusé 8 routes souterraines pour circuler en sécurité sous la crête. Plusieurs dizaines de drones explosifs et des centaines de mines ont été saisies, selon l'armée israélienne. Pour rappel, pendant les négociations entre le Liban et Israël, les États-Unis, par un des pourparlers, ont proposé que l'armée libanaise prenne le contrôle de la crête d'Alitaer, une proposition qui avait été refusée par le Hezbollah.
Merci beaucoup, Inès Gilles. Direction la France à présent, les propos racistes d'un policier municipal de Carcassonne. On vous en a parlé longuement cette semaine. Ces propos suscitent toujours l'indignation générale, des propos, on le rappelle, captés par sa propre caméra piéton. Les faits datent de novembre 2025. Ils ont été révélés par le quotidien Midi Libre, nos confrères. Une enquête a été ouverte par le parquet de Carcassonne, le président honoraire du MRAP, une association qui combat les discriminations. Jean-François Quentin, on l'écoute.
La gravité, elle apparaît à tout le monde. C'est effectivement des propos d'une violence et d'une grossièreté absolue. Ça a choqué tout le monde. Pas que nous, évidemment. C'est ce que ça révèle. Nous, c'est pas tellement une surprise parce que on sait que ce genre de mentalité est présente. Alors, elle est présente dans la population, mais elle est aussi présente, on le sait, dans certains éléments de la police, qu'elle soit nationale ou municipale. Donc, la surprise, c'est que cette fois, ça a été enregistré et incontestable, alors qu'on sait que c'est assez courant comme vocabulaire, comme mentalité, mais d'habitude, on n'en a pas les preuves, on n'en a pas le témoignage comme cette fois.
Et vous l'avez dit, certains éléments, ce n'est donc pas une généralité, mais il faut des sanctions bien adaptées.
Ah, absolument, absolument. Déjà, en soi, les propos tenus sont des délits, parce qu'il faut se rappeler que le racisme, c'est un délit. Et alors, doublement, quand ça vient de personnes qui sont chargées d'une mission publique, c'est d'autant plus inadmissible. Donc, effectivement, il faut toutes les sanctions à la fois administratives et judiciaires, puisqu'il y aura des plaintes dont nous, on sera partie prenante.
Vous allez porter plainte au sein du MRAP.
Oui, ou alors on va se porter partie civile. Je ne sais pas encore, mais de toute façon, on sera partie prenante de l'action judiciaire contre ces personnes.
De tels propos, la violence de ces propos, c'est quelque chose qui a été rarement entendu, en tous les cas rarement public.
C'est pas qu'il soit si rare que ça. Ce qui est rare, et en un sens c'est heureux, c'est qu'ils aient été enregistrés et que pour une fois, ils sont incontestables et on sait qui les a tenus. Donc, à la limite, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de révéler un phénomène qui existe, qu'on connaît et qu'on prouve assez rarement.
Un des propos recueillis par François-Xavier de Calonne. L'actualité également, le gouvernement a baissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5% contre 0,7% attendu auparavant. Une annonce aujourd'hui du ministre de l'économie, Roland Lescure. Matignon table sur une croissance de 1% l'an prochain. Et puis enfin, en football, la première journée de Ligue des Champions s'est achevée hier soir avec une large victoire des Allemands du Bayern Munich, mais également de Manchester United. De belles performances. Retour sur les derniers matchs de cette première journée avec vous, Salma Derlaoui.
Oui, le Bayern Munich a frappé fort pour son entrée en lice avec une large victoire. 5-0 face à Bodo Glimt avec un doublé de l'international français Michael Olise. De son côté, Manchester United a parfaitement réussi son retour après deux saisons d'absence avec une belle victoire 4-0 contre le club d'Azerbaïdjan, Sabah. Soirée plus spectaculaire pour Côme. Pour sa toute première apparition dans la compétition, le club italien s'est imposé 4-1 face à Leipzig. Lens aussi repart avec les 3 points. Les nordistes ont renversé le Slavia Prague 3-2 avec 2 buts dans les dernières minutes. Enfin, Fenerbahçe et la Roma, tout comme le PSV Eindhoven et le Shakhtar Donetsk, se sont séparés sur un match nul, 1-1.
Et alors, on connaît désormais le classement provisoire des clubs, avec le PSG notamment en tête, devant le Bayern et le FC Barcelone. Mais qu'en est-il du classement des buteurs, Salma ?
Alors, au classement des buteurs, plusieurs joueurs se sont déjà démarqués. 3 notamment pour Ferran Torres avec le PSG et Emerdin Demirovic avec Stuttgart. Derrière, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rafinha ou encore Erling Haaland comptent déjà 2 réalisations. Il faudra maintenant patienter 1 avant la deuxième journée. Elle aura lieu les 13 et 14 octobre et les clubs français auront fort à faire puisque Arsenal recevra Lille le 13 octobre, tandis que Manchester City accueillera le PSG le lendemain.
Merci beaucoup Salma Darlaoui pour toutes ces précisions. Radio Orient, il est 13h12. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 17h.